RCF, l'œuf et la poule, Olivier Horry.
Bienvenue dans l'œuf et la poule, l'émission qui tourne en rond. C'est surtout la conversation philosophique mensuelle sur RCF avec mon interlocutrice Odile Autré. Ce mois-ci, la question, c'est la question du travail. Vaste question, une fois de plus, dans cette conversation philosophique.
Oui, une question toute simple. Alors, dans l'idée du travail, on voit souvent l'idée d'effort, de souffrance. On voit aussi l'idée d'énergie, de mouvement.
Oui, le travail, c'est effectivement un peu tout ça. Je trouve intéressant, quand on commence comme ça à parler du travail, de se référer à la définition des physiciens. Dans la physique classique, le travail, c'est le déplacement d'une force. C'est une force qui se déplace. Cette force qui se déplace, c'est une force en mouvement, c'est une force qui traverse une certaine distance en un certain temps. Typiquement, c'est la force, ça va être le poids, et on va se charger, c'est le cas de le dire, de déplacer ce poids. Il va falloir pour ça fournir effectivement, comme vous le dites, un certain effort, une énergie. Et ce qui saute aux yeux d'une certaine manière, c'est que le travail ainsi défini par les physiciens est un phénomène absolument omniprésent dans l'univers matériel. Tout est en travail partout. Au point de vue physique, ça va être le travail des planètes en rotation autour de leur étoile. Il y a un travail gigantesque, évidemment. À l'autre bout de l'échelle de l'univers matériel, le travail, ça va être le travail des molécules. Les molécules d'eau qui s'agitent, et puis l'eau va s'évaporer. Hein, c'est un phénomène de transfert d'énergie. Et puis, on change d'univers, on passe dans l'univers du vivant. Le travail va avoir une toute autre forme, il va être d'une toute autre nature, mais il va y avoir aussi des travaux, depuis la cellule qui se divise, l'organe qui assume sa fonction, l'organisme qui se développe, qui se déplace, lui aussi. Tout ça, c'est du travail. Et puis, tout se passe comme si on avait encore une sorte de métamorphose et qu'on rentrait dans le travail humain, c'est-à-dire le travail effectué par un être qui a un corps, naturellement, c'est pour ça qu'il travaille, mais aussi une conscience réflexive. Et quand on prend une conscience réflexive du travail, il se manifeste presque immédiatement par deux aspects. D'un côté, il y a cet effort, mais cet effort va se manifester par de la fatigue, il peut se manifester par de la douleur. Dans le travail, on peut se blesser, on peut se faire mal, effectivement. Mais d'un autre côté, le travail, il est accomplissement, justement, on l'a dit, d'un mouvement approprié, conforme à ce que nous sommes, à notre nature, corporelle et intellectuelle, spirituelle même. Et de ce point de vue-là, le travail est source de satisfaction, de plaisir, de créativité. Donc effectivement, le travail, on peut le considérer à la fois comme une quantité, comme une grandeur omniprésente dans l'univers, qui pour l'homme va avoir une connotation négative de pénibilité et une connotation positive de satisfaction finalement.
Oui, la société a pris soin, on peut dire, d'organiser ce travail. Normalement, le travail, c'est la production d'une énergie, l'utilisation de son énergie en échange d'une contribution, mais c'est un échange différé, par contre. Alors que si on voit la vie des chasseurs-cueilleurs avant cette organisation du travail, ils avaient aussi une rétribution, mais elle correspondait à l'effort qu'ils avaient produit et elle était immédiate.
Oui.
Par contre, il n'y avait pas le stock que. Ils cherchaient pas à établir un stock, puisqu'ils étaient itinérants, la plupart du temps. Alors que nous, il y a aussi cette notion de stockage. oui. d'énergie et de bien.
Oui, il y a une rupture historique, effectivement, qu'on peut situer entre le paléolithique et le néolithique. En tout état de cause, ce qui paraît certain dès le départ, c'est que les sociétés humaines sont en partie organisées sur la division du travail. C'est-à-dire qu'en fonction de la place qu'on occupe, de la force qu'on a, de l'âge ou du sexe, les travaux vont être répartis. Hein. Vous parlez de chasseurs-cueilleurs, on voit là une première division du travail. Les sociétés néolithiques, elles sont elles aussi fondées sur la division du travail. Simplement, il y a beaucoup plus de spécialités. La sédentarisation permet effectivement d'anticiper, permet effectivement de différer la rémunération du travail sous forme de la monnaie, hein, par exemple, effectivement. Il n'en reste pas moins que dans un cas comme dans l'autre, quand on passe, on le voit tout de suite, quand on passe à la dimension humaine du travail, se pose immédiatement à côté de la description qu'on peut en faire, on l'a vu, physique, universelle, se pose la question de la justice sociale dans la distribution du travail et dans la distribution de ses produits. Et là, effectivement, on a une palette impressionnante de choix sociaux faits dans cette répartition du travail et de ses produits.
Oui, et la différence, il y a quand même un rapport de force, ce qui fait que la hauteur de la rétribution, la manière dont le travail est réparti, qui peut travailler, qui n'a pas le droit de travailler, les femmes par exemple, pendant longtemps n'ont pas pu travailler, ça demande quand même des négociations, ça demande une société quand même relativement organisée pour pouvoir mettre tout ça en place.
Oui, complètement. Alors la question est de savoir si on organise l'injustice ou si on organise la justice.
J'ai des idées.
Oui, alors effectivement, c'est toute la question du travail social. Quand on dit que les femmes n'ont longtemps pas eu le droit de travailler, elles travaillaient néanmoins énormément. On parlait de chasseurs-cueilleurs, donc paraît-il plutôt la cueillette. Que la chasse, pour des questions d'organisation physique des gens, d'une certaine manière, et puis s'occuper des enfants, s'occuper, etc. Donc on voit très bien que rapidement, l'organisation, elle se fait, mais la question va être de savoir quels principes on va utiliser pour que la répartition qui se fait soit aussi juste que possible.
Thank you.
Brad Meldo, For No One.
RCF, l'œuf et la poule, Olivier Horry.
La conversation philosophique avec Odile Autré, ce mois-ci autour de la question du travail, Odile, n'est-ce pas ?
Oui, et on en était arrêté au travail des femmes. Le travail, ça donne une notion d'appartenance à la société, une contribution. Justement, est-ce qu'en ça, le fait que les femmes rentrent dans une position, dans une profession, au lieu d'être soumises justement uniquement au travail de la maison, on va dire, travail domestique, est-ce que ça a pu changer durablement et définitivement leur place dans la société ?
Ah, je crois que c'est incontestable, oui.
Et durable ?
L'avenir nous le dira. Et personnellement, je ne sais pas pour l'avenir. Mais que ça représente un changement fondamental dans l'organisation sociale, ça, c'est absolument indéniable, je pense. Et d'une certaine manière, ça fait accéder... C'est le moyen par lequel la femme peut accéder effectivement au même statut que l'homme. Que les genres peuvent, d'une certaine manière, s'équivaloir. C'est absolument important, la position dans le monde du travail. Et c'est aussi important, la position dans le monde du travail, eu égard à la rémunération, justement. Un des problèmes qu'on rencontre dans les sociétés dites développées où les femmes travaillent, c'est qu'il y a encore aujourd'hui une différence autour de 14% à compétences égales entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Donc là, on est dans un cadre, bon, très particulier, mais quand même universel, intéressant. On est dans un cadre de nécessité d'examiner la juste répartition du travail et de ses produits.
Voilà, et ça, c'est quelque chose qui reste tout le temps à négocier. Enfin, pas uniquement avec le travail des femmes, mais le travail en général, c'est quelque chose qui n'est jamais définitivement acquis, oui, qui est toujours à retravailler en société.
Je pense qu'il est juste de parler de négociation permanente autour du travail. Parce que si nous sortons de la définition très très générale que nous avons donnée du travail en termes de déplacement d'une force, hein, par exemple, il est bien clair que quand nous entrons dans le domaine humain, toutes les activités ne sont pas du travail. C'est-à-dire tout ce qui est travail d'un point de vue physique ou biologique n'est pas du travail social. Et inversement, enfin, si tout travail social est quelque part un travail physique et biologique. Mais disons que... Alors, Comment distinguer le travail des autres activités ? Or, il m'apparaît que nous parlons de travail plutôt que de loisir, par exemple, quand apparaît une dimension de contrainte. Quand je suis contraint ou quand il y a la nécessité de travailler, hein, pour, comme on dit, faire bouillir la marmite, gagner sa croûte, etc., on a une dimension de contrainte qui apparaît. Et d'un point de vue philosophique, il se passe un phénomène qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'au moment où le travail devient conscient avec l'homme, l'homme, lui, en même temps qu'il prend conscience, il prend conscience de sa liberté, de choisir, de faire ou de ne pas faire les choses. Alors c'est assez curieux que l'homme devient conscient, il prend conscience de sa liberté, mais au moment même où il prend conscience de sa liberté, il prend conscience des contraintes liées au travail et de la nécessité de travailler. Alors évidemment, il y a une espèce de paradoxe dont un homme, je dirais, normalement constitué, j'entends bien un humain normalement constitué, ce paradoxe, il veut s'en débarrasser. Et le meilleur moyen de s'en débarrasser, bah, c'est de ne pas travailler. C'est-à-dire de ne pas accepter toute espèce d'activité à laquelle il serait contraint de s'adonner. Et effectivement, on va avoir là la grande distinction, si vous voulez, qui va pouvoir se faire entre celui qui est dans une société, celui qui est le plus contraint au travail qu'on puisse imaginer, à savoir l'esclave, et celui qui est le moins contraint qu'on puisse imaginer de travailler, que dans notre société occidentale, on pourrait appeler le noble, n'est-ce pas ? Le noble qui n'avait même pas le droit de travailler, si ce n'est les travaux de la guerre, mais ça justement, c'est tout autre chose. Hein. On sait très bien que la guerre obéit à de tout autre logique que la logique de la paix. Dans la paix, le noble, c'est celui qui ne travaille pas, l'esclave, c'est celui qui, à la limite, ne fait que travailler. Dans les deux cas, il y a une espèce de négation de l'humanité, hein, vers le bas du côté de l'esclave, et arbitrairement et très abstraitement vers le haut du côté du noble. Et la femme, justement, a eu, dans cette vaste négociation, hein, qui va devoir se faire entre ceux qui pourraient devenir esclaves et ceux qui pourraient devenir nobles, la femme est évidemment au cœur de ces négociations pour que son statut à l'égard du travail soit traité comme celui de tous les humains.
Voilà. Alors qu'elle a été longtemps contrainte, elle, à l'oisiveté. C'était son statut.
À l'oisiveté sociale, mais peut-être à l'esclavage domestique.
Oui, voilà. Il y avait plusieurs milieux, donc oui, il y avait plusieurs. Là aussi, il y avait plusieurs situations, oui.
Oui,
oui, et pour en revenir à l'esclavage, oui, c'est quand même. On supprime l'humanité de la personne, on supprime son statut d'humain.
Complètement.
Il devient un outil, en fait.
Complètement. C'est-à-dire que dans le cas de l'esclavage, on est à l'opposé de cet impératif moral qui consiste à considérer l'autre comme une fin, comme un être libre qui a lui aussi une marge de manœuvre, une liberté de choix.
Oui. Et par contre, ce besoin de considération, enfin, ça, c'est tout à fait universel. Et dans les emplois qui sont à la fois faiblement rémunérés et qui sont très contraignants au point de vue physique, on peut ressentir aussi cette sensation de dépersonnalisation ou d'utilisation.
Oui, complètement. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à l'expérience à l'usine de Simone Veil, la philosophe. Simone Veil, donc éducation bourgeoise parisienne, école normale supérieure, agrégation, professeur de philosophie, et puis tout à coup le désir d'aller tâter le terrain d'une certaine manière, et elle rentre à l'usine, et là elle fait l'expérience du travail aliéné de toutes les manières. Alors d'une manière propre à la révolution industrielle, c'est-à-dire le travail est répétitif, il est morcelé, donc de ce point de vue-là, il est peu conforme à la nature humaine globale. Mais ce qui est beaucoup plus grave, parce que je crois que la répétition et le fait de ne pas voir l'œuvre entièrement accomplie, c'est quand même le propre de beaucoup de travaux, même les plus dignes, enfin, ou les plus reconnus. Un chercheur, il fait beaucoup de routines, il fait aussi, il ne voit pas non plus forcément la fin de l'œuvre. Mais ce qui est préoccupant dans le cas de Simone Veil, ce qu'elle pointe évidemment, ce sont les contraintes sociales qui sont liées au travail, et en particulier le fait de travailler aux pièces et non pas à l'heure, qui permet, si vous voulez, de la part des employeurs, de subtiliser énormément de temps, ce qui est une dimension fondamentale du travail. Hein. Puisque si vous faites travailler à la pièce, hein, vous contraignez énormément le temps du travailleur et vous pouvez le voler d'une partie de son activité. Francis Poulenc, improvisation numéro 13, c'était Eliran Avni au piano.
RCF, Olivier Horry.
La conversation philosophique se poursuit avec Odile Autré et ce qui nous occupe ce mois-ci, c'est la question du travail.
On parlait de Simone Veil qui a voulu aller travailler dans les usines pour apprendre un peu de quoi il s'agissait. Et donc l'industrialisation, elle avait apporté l'espoir de réduire le temps de travail nécessaire aux, disons, satisfaction des besoins de base et de libérer du temps libre, oui, du temps disponible. Qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Et une autre proposition de l'industrialisation, c'était de sortir de l'idée du travail vulgaire et d'amener les hommes sur les tâches nobles et de laisser les tâches dites vulgaires aux machines. Et là aussi, que s'est-il passé?
Ben, je crois qu'on n'a pas réussi notre coup du tout. À l'évidence, le travail très, très, très contraint du point de vue social, avec peu de rémunération, peu de participation aux produits du travail, et puis des tâches très mécaniques, très répétitives, accomplies dans des conditions, parce que c'est des conditions de travail qui sont complètement en contradiction avec l'idée qu'on se fait de l'homme. Ben, toute cette situation-là, elle s'est en partie déplacée. C'est-à-dire les sociétés les plus riches, les plus développées, ont déplacé ce travail que Simone Veil a expérimenté dans les usines. Ce travail a été déplacé dans les sociétés moins riches. Hein. La Chine, par exemple, est devenue un peu l'usine du monde, hein, pour le textile, mais pas seulement, pour des tas de choses. Et puis, je crois qu'on ne l'a pas seulement déplacé, on l'a, d'une certaine manière, consolidé, même dans nos sociétés développées, où il reste plus que des niches de travail socialement très, très dévalorisées à tout point de vue. Hein. De ce point de vue-là, bon, l'industrialisation n'a pas du tout tenu ses promesses. Quant à l'autre aspect, c'est-à-dire non pas supprimer le travail très servile, mais développer le travail noble, même s'il y a une espèce de contradiction dans les termes, travail noble, mais on va dire évidemment que ça, on a cru qu'on y parvenait en développant ce qu'on a appelé la société de loisirs. C'est-à-dire qu'effectivement, la libre activité a pu se développer au fur et à mesure qu'on pouvait se décharger d'un certain nombre de tâches sur les machines, puis surtout aujourd'hui les robots, l'intelligence artificielle, etc. Il semble qu'effectivement on soit appelé et qu'on ait déjà dégagé énormément de temps de loisirs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité de loisirs et en quoi elle se distingue du travail? Ben justement, déjà pour ça, c'est la liberté. C'est-à-dire, dans l'activité de loisirs, je fais, c'est presque un slogan, je fais ce que je veux. C'est un petit peu l'individu de la société de consommation, c'est ça, hein, c'est je fais ce que je veux. Et puis, normalement, l'activité de loisirs, qui était autrefois ce qu'on pourrait appeler l'activité noble, hein, par opposition à l'activité contrainte du travail, elle est plus conforme à la nature humaine, c'est-à-dire que, par exemple, dans les activités de loisirs, on va faire du sport, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose, on va avoir des activités qui, normalement, sont parfaitement adaptées à notre corps. Et puis, on va avoir des activités aussi intellectuelles, la lecture, les jeux de société, etc., qui, elles aussi, ces activités, vont permettre de développer librement les facultés humaines dans le respect de ce qu'elles sont d'une certaine manière. Et puis surtout, dans les activités de loisirs, on va s'ingénier d'une certaine manière à vivre et être mis face à face à des œuvres achevées. C'est-à-dire, on va aller au cinéma, on va lire un roman, on va aller au théâtre, aller à un concert, et on va soi-même s'adonner à la musique et aux arts, par exemple, pour pouvoir bénéficier de la satisfaction d'une œuvre achevée, ce qui nous est rarement donné dans notre activité de travail social contraint. Voilà. Je crois que notre rendez-vous philosophique s'achève déjà. Et oui, nous sommes contraints par le temps dans notre activité conversationnelle,
voilà.
Cher Odile. Merci Odile de nous avoir conduit à travers ces investigations philosophiques. Nous avons écouté de la musique, comme tout d'habitude. Francis Poulenc, l'improvisation numéro 13, opus FP 170. Improvisation en la mineur, interprétée par Elirand Avni. Et puis, c'était au tout début, Brad Meldo, For No One, chanson de Paul McCartney, que Brad Meldo a interprété en septembre 2020 en public à la Philharmonie de Paris. C'est sorti sur album. Trois ans plus tard, en 2023, c'est l'album Your Mother Should Know. Brad Meldo plays the Beatles. Effectivement, il nous offre une magnifique interprétation des standards des Beatles. Merci à Landy Unger qui choisit la musique pour L'œuf et la poule. Et merci à Vincent Guillon qui réalise tout ça. Ciao, ciao.